Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnandi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Chaque 8 mars, journée internationale des droits des femmes, des associations, des collectifs font le bilan. Cécile Grosjean, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité, est notre invitée.
Quelle est la place des femmes dans le milieu du skateboard? Un reportage de Lina en stage à la radio.
Et tout de suite, c'est l'actu en bref.
Bourque, en bref.
Yaya peut rester en France.
Le jeune Guinéen de 20 ans a obtenu son récépissé à la préfecture de l'Ain la semaine dernière. On écoute sa réaction.
Et aujourd'hui, c'était une journée de liberté pour moi parce que à partir du moment où j'ai été récépissé, je suis libre de faire mon contrat d'apprentissage, libre de passer mon droit pour le permis de conduire, libre de faire mes activités quotidiennes. J'ai plus peur d'être arrêté et contrôlé parce que tout peut arriver. Même si je ne constitue pas un trouble d'ordre public, mais tu peux tomber sur un contrôle et que ça finit mal, quoi. Aujourd'hui, je suis libéré de tout ça grâce à la bonne décision de Madame la Prophète à travers toutes ces lettres de soutien, ces attestations des différentes associations et surtout Emmaüs qui m'a en tout cas permis de refaire une nouvelle vie après ma majorité. Je n'avais plus d'espoir. M'a donné la chance de revivre.
Yaya avait 14 ans quand il a quitté la Guinée. Il était maltraité par sa famille. Depuis 2018, il était compagnon à Emmaüs Servas. Patricia, sa maître d'apprentissage, l'a soutenu tout au long de son parcours. Elle l'a accompagné à son rendez-vous avec la préfète. Ils sont ensuite allés directement au centre de formation en alternance à Ambérieu-en-Bugey. Et c'est là que Yaya va étudier pour devenir boulanger. On écoute Patricia.
La directrice, Yaya et moi, on a signé le contrat d'apprentissage ce matin. Directement dans les locaux du SECOF. Donc il est attendu pour une demi-journée d'immersion dans le lycée à sa guise. Hein. Et le 15, il rentre en classe. Là, il va venir, il vient vivre à la ferme définitivement. Voilà, où il va pouvoir vivre sa vie de jeune de 20 ans. Donc demain, il est attendu pour sa première leçon de code, hein, si on lui fait passer le permis de conduire. Et j'ai anticipé, moi, hier, j'étais vraiment en confiance par rapport à son récépissé, donc j'ai un peu anticipé. Du coup, comme je sais qu'il est passionné de foot, je l'ai inscrit. Il va faire son premier entraînement de foot dimanche à Saint-Trivier-sur-Moignon.
À terme, quand Patricia et son compagnon partiront à la retraite, Yaya devrait reprendre la ferme des Pétillères située vers Châtillon-sur-Chalaronne.
De l'électricité verte pour éclairer l'espace public.
L'agglomération et la ville de Bourg-en-Bresse ont choisi d'alimenter une partie de l'éclairage public et des bâtiments publics avec de l'électricité verte. Ça veut dire qu'elle est produite par des énergies renouvelables comme les éoliennes, les panneaux photovoltaïques ou encore l'hydraulique. Cette énergie est produite en partie dans l'Ain, comme avec le barrage de Métral à Valseronne. Cette énergie va alimenter notamment l'école de Brou et les gymnases de Césaria. Ce choix d'électricité verte est plus cher pour les collectivités. Le surcoût est évalué à 61 000 euros.
Des phases éliminatoires en ligne et la finale au théâtre de Bourg-en-Bresse.
L'édition 2021 du concours d'éloquence s'adapte au contexte sanitaire. Vous pourrez regarder les performances des candidats sur la chaîne YouTube de l'association Juristes Jeunes du campus de Bourg. Un concours ouvert à tous les étudiants burgiens. La première phase éliminatoire, c'est ce jeudi 11 mars. La seconde phase, c'est le jeudi 18 mars. Et la grande finale se déroulera au théâtre de Bourg-en-Bresse le 31 mai.
un rassemblement place de la Comédie à Bourg-en-Bresse.
Cette manifestation organisée par la CGT a lieu tous les ans pour la journée des droits des femmes. Environ 150 personnes étaient au rendez-vous samedi dernier pour écouter des prises de parole, mais aussi assister à des intermèdes culturels du collectif Culture de l'Ain, comme la compagnie Arphonème et l'artiste Julie Garnier. Élodie Guédiolet était sur place.
Alors Corinne Jacquet de l'Union départementale CGT de l'Ain. Ce rassemblement, c'est comme chaque année pour défendre les droits des femmes. Cette année, en plus, nous avons choisi de mettre à l'honneur tous ces métiers invisibles qui ont été mis en évidence dans le cadre de la crise sanitaire.
Justement, lundi, il y a aussi des actions prévues. Vous appelez à la grève. Vous pouvez nous expliquer ce qui va se passer ?
Le 8 mars, on a décidé de laisser la liberté à chaque syndicat de s'organiser au sein de son entreprise pour décider d'actions diverses, distribution de tracts, assemblée générale, journée ou heure de grève. Et pour ce faire, on a déposé un préavis de grève au niveau de la préfecture de l'Ain.
Et retrouvez Je suis féministe, la chronique présentée par Élodie, jeudi 18 mars, avec l'interview de Caroline Dehas. Cette burgienne figure féministe a fondé les collectifs Oser le féminisme et plus récemment Nous toutes. Son manuel En finir avec les violences sexistes et sexuelles est paru le 4 mars aux éditions Robert Laffont.
Quelques événements pour cette semaine dans le cadre de la journée des droits des femmes.
L'association Dalir01 organise un atelier Fit Dance ce vendredi entre 14h30 et 15h30. Ça se passe au parc Léon Belay. Le Centre social des Veynes accueille, lui, une exposition sur les publicités sexistes. C'est organisé par le collectif Libérer la vue, de 16h30 à 18h, jeudi 11 mars. Dans le quartier des Veynes toujours, samedi, vous pouvez suivre une balade comptée à vélo pour découvrir les plaques de rue qui célèbrent les femmes. C'est Bourg Nature Environnement qui l'organise entre 14h et 16h. Et toute la programmation est à retrouver sur le Facebook de l'UDAF01.
2 minutes, une actu.
Inès, vous avez retenu 5 dates clés dans l'avancée des droits des femmes en France. La première, c'est le 29 avril 1945, juste après la Libération.
Et les femmes votent pour la première fois lors des élections municipales. Les Françaises sont quand même parmi les dernières femmes des pays occidentaux à obtenir le droit de vote et à pouvoir aussi être élues.
Pour entendre l'historique de cette avancée, c'est dans les Chroniques du passé. Une émission à retrouver mercredi 10 mars à 7h30, 8h30 et 12h30 sur le 90FM en podcast sur radio-b.fr. On passe maintenant à novembre 1947.
Une femme est nommée ministre pour la première fois, c'est Germaine Poinçon-Chapuis. Elle est à la tête du ministère de la Santé publique et de la Population et il faudra attendre la nomination de Simone Veil en 1974 pour voir une femme occuper cette fonction à nouveau.
13 juillet 1965.
La loi modifie le régime légal du mariage sans contrat. Les femmes peuvent gérer leurs biens propres. Avant, elles devaient avoir l'autorisation de leur mari pour ouvrir un compte en banque. Elles peuvent aussi exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari. Une femme sur deux travaille alors. Et c'est à partir de cette avancée qu'elles commencent à revendiquer leur liberté.
17 janvier 1975.
C'est la promulgation de la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, dite loi Veil. Les femmes peuvent alors avorter pendant les 10 premières semaines de la grossesse, mais les médecins peuvent quand même refuser l'avortement. Cette loi est adoptée pour une période de 5 ans et elle est reconduite en 1979.
Et pour finir, le début des années 90.
En 1990, pour la première fois, le viol entre époux est reconnu par la justice. La loi du 22 juillet 1992 condamne les violences conjugales. La qualité de conjoint ou concubin est reconnue comme circonstance aggravante. Et le harcèlement sexuel au travail devient aussi un délit.
Et alors Inès, qu'est-ce qui a changé récemment au niveau des droits des femmes en France ?
La loi du 30 juillet 2020 fait suite aux travaux du Grenelle des violences conjugales. Elle a permis quelques avancées et protège un peu plus les victimes. Le parent violent n'a plus le droit de voir son enfant. Les infractions graves sont enregistrées dans le fichier judiciaire de la personne. Et la levée du secret médical est possible quand les violences mettent en danger la vie d'une personne majeure sous l'emprise de l'auteur des faits.
L'invité de Radio B.
Cécile Grosjean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité à la direction départementale de la cohésion sociale de l'Ain. Cécile Grosjean, ces avancées sont récentes. Pourquoi ça met autant de temps ?
C'est long parce que ce sont des habitudes qui sont prises depuis longtemps. Et donc, il faut du temps, il faut beaucoup d'éducation. Ça passe par une action de long terme. Et puis, par contre, ça peut aussi avancer vite. Quand on met en place, quand les lois mettent en place des quotas, par exemple, on le voit dans les conseils de surveillance, les comités de direction, ça a avancé beaucoup plus vite. Et maintenant, la France occupe la première place européenne en termes de participation des femmes au comité de surveillance des grandes entreprises. Donc, il y a aussi une façon d'agir qui permet... des évolutions beaucoup plus rapides. Donc c'est possible.
Cécile Grosjean, vous avez été chargée de mission et conseillère au cabinet de la ministre de l'Enfance, des Familles et des Droits des Femmes de 2014 à 2017. Quelles étaient vos missions ?
Il y avait cette jonction très intéressante qui était faite entre les droits des femmes et puis la politique de l'enfant, de l'enfance, de l'accueil de l'enfant, et de permettre que dès le plus jeune âge, on puisse aborder ces questions-là. Et donc par exemple avec la publication de livrets d'accueil du jeune enfant, de livrets pour les parents d'adolescents, où ces questions d'égalité, ces questions d'éducation non violente, ces questions de droits des femmes, droit à la vie sexuelle, de consentement pouvaient être abordées de façon très concrète, très directe. Des livrets qui sont distribués par les caisses d'allocation familiale, par exemple, accessibles aussi aux centres sociaux, voilà, à cette époque-là.
Cécile Grosjean, vous avez eu une vision nationale, européenne et maintenant départementale. Est-ce plus facile de faire bouger les choses au niveau local ?
En tout cas, c'est très intéressant de travailler directement à la mise en œuvre des actions, de négocier avec les partenaires et de pouvoir aussi être force de proposition pour déployer des actions. Là, on va faire une série de portraits vidéo avec l'association Famille Rurale de l'Ain, de femmes aspirantes du département sur les femmes en situation de responsabilité. Donc voilà, des actions très concrètes qui permettent dans le département de proposer des rôles modèles féminins qui ne sont pas habituels, de femmes en situation de responsabilité, soit dans certains métiers, certains secteurs. Et donc c'est vraiment très intéressant d'avoir eu cette vision évidemment nationale européenne, mais qui me frustrait un peu par l'impossibilité de concrètement décliner ces actions-là sur le territoire. Et donc je suis très heureuse d'être dans l'Ain depuis le 1er septembre.
Donc vous venez de le dire, vous êtes arrivé dans l'Ain le 1er septembre. Donc qu'est-ce que vous prévoyez de faire pour améliorer la situation des femmes ?
En 2021, nous allons former tous les chefs de projet de la politique de la ville au budget intégrant l'égalité. Et donc très concrètement, nous allons nous doter avec cet outil-là d'un outil de mesure pour savoir si les crédits politiques de la ville renforcent les inégalités ou au contraire permettent de les corriger. Voilà, et puis il y a beaucoup d'autres actions qui se mettent en place. On développe aussi les hébergements d'urgence pour les femmes victimes de violences. Dès aujourd'hui, la préfète signe une convention de partenariat avec Dynacité, l'association Tremplin, qui gère le numéro d'appel 115, la sauvegarde 01 et puis l'accueil Gessien pour développer de nouvelles places d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences. Et donc, je pense que dans le département, il y a beaucoup d'actions qui vont pouvoir se poursuivre, d'autres qui vont pouvoir se monter, tant à la fois sur la lutte contre les violences faites aux femmes, un soutien à la promotion de l'égalité des droits et à l'égalité des sexes.
Est-ce qu'il y a d'autres domaines autour des droits des femmes sur lesquels il faut insister, ou est-ce que vous avez déjà vu qu'il y avait une spécificité dans l'Ain ?
La spécificité dans l'Ain, elle est plus liée à la géographie du département, qui est très étendue, avec une partie rurale où il y a peut-être un accès un peu moins facile aux permanences des associations qui accompagnent les femmes victimes. Une difficulté peut-être un peu plus accrue à repérer et accompagner les femmes victimes de violences dans ces territoires-là. Et puis, des zones très urbaines, avec des quartiers prioritaires politiques de la ville, où là, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Donc, il y a un enjeu de coordination des différentes actions. Et puis, de place de la femme aussi, de partage de l'espace public, de mixité des espaces. Et donc... notre enjeu, c'est de mailler le territoire du département, que l'on puisse rendre assez accessible nos actions à toutes les femmes du département.
Cécile Grosjean, merci.
Merci à vous.
Vous êtes déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité à la direction départementale de la cohésion sociale de l'Ain.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin ?
Ben, ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la bague. D'accord ? Vous voyez là derrière, au fond, loin, il y a une vague.
En reportage avec Radio B.
Lina, notre stagiaire de 3e, a voulu parler du skateboard au féminin à l'occasion de la journée des droits des femmes. Bonjour Lina.
Bonjour à toutes et à tous.
Lina, comment as-tu découvert le skate ?
J'ai commencé à skater il y a environ 8 mois. Je me suis vraiment intéressée à ce sport pendant le premier confinement. Je passais mon temps à regarder des vidéos de skate. Ce qui m'a plu, c'est le côté artistique des figures, les tricks en anglais. La bonne humeur et la solidarité des skateurs m'a motivée à me lancer. Au début, j'avais très peur d'aller au skatepark à cause de ma timidité et la peur d'être jugée par les autres. Grâce à un coup de pouce d'un ami à ma mère, j'y suis allée pour la première fois. Et à ma grande surprise, les skateurs ont été très gentils et solidaires avec moi. Au fil du temps, j'ai commencé à aller au skatepark presque tous les jours, ce qui m'a permis de progresser et de me faire quelques amis.
Quelles sont les origines du skateboard ?
Le skate prend vie au début des années 50. Des surfeurs auraient eu l'idée de transférer les sensations du surf dans la rue. On appelait même ces garçons des surfeurs d'asphalte. Le skateboard se développe sur deux spots emblématiques, la Californie et Hawaï. Il utilise alors des petites planches de surf avec des roues faites de métal, sans roulement. Au début des années 60, le skateboard devient de plus en plus populaire aux États-Unis, particulièrement à Los Angeles. En 1972, nouvelle grande étape, c'est l'invention par un Californien des roues en uréthane. C'est comme du caoutchouc. Elles permettent une pratique du skate plus rapide et plus confortable. En 1976, le premier skatepark est inauguré. Un nouveau style apparaît, les skateurs se mettent à réaliser de nouvelles figures. Le matériel de skate se développe de plus en plus. Les formes changent, les planches deviennent plus larges, plus concaves. Elles possèdent désormais un tail et un nose, c'est-à-dire des bords différents.
Le skate se féminise de plus en plus. Quelles sont les femmes qui ont marqué ce milieu sportif ?
Patty McGee, première femme à remporter le championnat national de skateboard à Santa Monica en 1964. McGee a également été la première skateuse professionnelle. Elle a été payée par Hobby Vita Park, une ancienne marque de skate, pour voyager et démontrer que le skateboard est un sport national. Elisa Stramer est une légende du skate féminin, première femme à se faire sponsoriser par une compagnie de skateboard, mais encore, elle fait son apparition dans le jeu du célèbre skateur qui a créé le ollie, Tony Hawk. Le jeu s'appelle Pro Skater. Laetitia Buffoni est aujourd'hui l'une des femmes qui gagne sa vie grâce au skate. C'est aussi la skateuse qui a gagné le plus de médailles d'or au X Games, la compétition la plus prestigieuse aux États-Unis. Elle a été aussi 4 fois championne du monde du skateboard.
Vous écoutez Radio B.
J'ai demandé l'avis de quelques skateurs de Bourg-en-Bresse sur la féminisation du skate. Voici leur réponse. Que penses-tu des filles qui skatent ?
C'est ni un sport de mec, ni un sport de filles. Enfin, c'est mixte.
Je pense qu'il y en a plein qui aimeraient bien skater, mais c'est plus par pudeur du fait qu'il y ait plein de mecs au skatepark. Et, du coup, ça les motive pas trop. Sinon, bah, je trouve ça... C'est comme un mec qui skate, quoi. Enfin, c'est la même chose, quoi.
En fait, le skate, c'est un sport où, en général, il y a beaucoup de gars. Surtout dans le skatepark, en fait, il y a quasiment que de ça. Et ça fait plaisir, en fait, de voir qu'il y a des filles qui se lancent et tout. Et personnellement, bah, quand je suis allé skater à Genève, j'avais vu des filles qui skataient. Et même des fois, elles me donnaient des conseils. Genre, elles étaient bien plus fortes. Et c'est pas parce que c'est des filles qu'elles sont moins fortes que les garçons.
C'est quand même un sport assez genré. Et puis de voir qu'il y a des filles qui s'y intéressent, bah c'est vraiment bien.
Ah, moi je trouve ça bien parce qu'on a tendance à plus voir des garçons que des filles. Et voir des filles ça fait plaisir en vrai.
Et selon toi, pourquoi il y a plus de garçons qui font du skate ?
Parce que les deux grands skateurs que je connais qui ont marqué le skate, c'est Ron Nemulen et Tony Hawk. Donc comme c'est des hommes, il y a plus de mecs qui font du skate.
Je pense que c'est normal qu'il y ait plus de garçons qui skatent parce que c'est... Je trouve que c'est un sport, les sports un peu comme ça, freestyle et tout, c'est plus orienté garçons.
En gros, les gens ils sont là en mode... C'est un sport de garçon, un sport de filles, mais ça après pour moi c'est un peu des bêtises quoi. Enfin, il n'y a pas de sport qui est fait ou pour les garçons ou pour les filles. Mais le skate en fait c'est plus vu comme un sport de garçon, même si moi je suis contre. Et voilà quoi.
Le skate c'est un sport où tu te fais forcément mal. Mais comme il y a des garçons aussi qui ont peur de se faire mal, il y a des filles aussi qui ont peur de se faire mal. Et après bah je pense aussi parce que c'est plus vu comme un sport de garçon qu'un sport de filles.
Je pense que c'est aussi parce que il y a aussi énormément de surfeurs garçons, parce que le skate ça vient quand même de là, c'est du surf, voilà. Et ça a été surtout inventé en Californie, et puis voilà, en Californie il y a énormément de garçons qui skatent, du coup forcément ça a été comme une idée reçue où le skate c'est pour les garçons.
Parce que des blessures, tout ça. Et comme on dit que souvent les garçons sont les plus forts, et bah, ça revient là-dedans.
Qu'est-ce que les filles peuvent apporter de plus dans ce milieu ?
Bah, une ambiance moins entre gars quoi, déjà, donc un peu plus mixte.
Un milieu un peu plus mixte et moins toxique, parce que souvent les garçons, enfin c'est toujours compétitif. Et puis là, avec les filles, bah, au moins c'est plus pour se faire plaisir.
Merci aux skateurs qui ont répondu à mes questions.
Radio B, les bonnes ondes.
Maintenant, on écoute l'interview de Sophie Berthollet, la directrice de Relax, une association parisienne pour les skateuses. Pourquoi avoir créé ce collectif ?
C'est plus qu'un collectif, hein. D'ailleurs, c'est une association donc, qui a été créée en 2014. L'idée à l'époque, c'était vraiment de rassembler les filles qui skatent. Parce que moi-même, voilà, j'ai vraiment repris le skate à cette époque-là et j'avais remarqué qu'il y avait quand même très peu de skateuses, mais qu'il y en avait quelques-unes. Et que je me disais qu'il y avait peut-être d'autres filles comme moi qui skataient dans leur coin. Et l'idée, c'était plutôt de créer des événements pour les rassembler. Donc l'objectif, c'était de rassembler les filles, notamment en Île-de-France, mais pourquoi pas dans toute la France aussi. À l'époque, on était un peu optimistes. Donc voilà, c'était ça l'objectif à l'époque.
Votre association compte combien d'adhérentes ?
On peut compter à peu près 100 personnes. Donc 100 filles qui sont soit adhérentes, donc l'adhésion c'est 10 euros l'année, hein, c'est pour soutenir l'association. Et après on propose des cours de skate et là donc il y a à peu près une cinquantaine, soixantaine de filles. Sachant qu'on avait fait le calcul, l'ensemble de nos événements touche à peu près 200 personnes.
Comment ce nombre a évolué ?
Les toutes premières années, hein, en 2014, il y avait encore très peu de filles qui skataient, on n'était pas très nombreuses. Mais c'est là, effectivement, depuis à peu près un an et demi, deux ans, où là, il y a de plus en plus de filles qui se mettent au skate. Je pense que c'est lié à l'impact notamment des réseaux sociaux. Enfin, j'imagine que les filles, elles voient de plus en plus de filles qui skatent. Alors du coup, ça les motive et ça fait un peu effet boule de neige, quoi. Enfin, qu'elles se disent, si elles y arrivent, pourquoi pas moi, quoi.
Pourquoi le skate est vu comme un sport de garçon ?
Il est vu comme un sport de garçon parce que y a une majorité d'hommes et de garçons, hein, qui pratiquent, donc c'est un sport très masculin. Mais après, évidemment, c'est dans l'inconscient collectif, puisque le skate, faut être persévérant, faut être téméraire, on prend beaucoup de coups, on se fait souvent mal, donc du coup, on s'imagine que c'est fait pour les mecs, alors que qu'en fait, les filles en sont tout à fait capables, et je pense même que il y en a certaines qui ont plus de capacité que les hommes à réaliser des figures de skate, quoi. Ça c'est sûr, quoi.
Selon vous, pourquoi les filles hésitent à se lancer dans le skate ?
De manière générale, parce qu'il ne faut pas non plus trop catégoriser, mais de manière générale, nous les filles, on se pose trop de questions. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
Ouais.
Mais donc, et puis évidemment, il y a le regard de l'autre. Et puis de toute façon, comme c'est un sport, c'est un sport, une activité qui est surtout représentée par des mecs, forcément, les filles, elles se retrouvent en minorité. Et quand on est en minorité, forcément, on est un peu moins à l'aise. Si on relativise deux secondes, il n'y a aucune honte à être débutant, quoi. Donc, et après, ce qui fait la force de chacun, c'est de réussir à persévérer parce que, et être patient, parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas non plus à faire les choses du jour au lendemain, quoi. Il faut vraiment s'entraîner pour y arriver. Et ça, c'est vrai dans n'importe quel domaine de la vie, quoi.
Qu'est-ce que le collectif Relax apporte aux filles ?
L'idée, c'est de donner un petit coup de pouce, que les filles n'osent pas trop se lancer. On soit là pour dire n'aie pas peur, viens avec nous, tu vois, ça va être sympa. Et on est là aussi pour être avec toi, pour t'encadrer, pour te donner des conseils, puis pour passer un moment sympa. Donc ça, c'est le premier truc. Et puis l'autre, c'est vraiment l'aspect convivial, le fait de rencontrer aussi, moi c'est ce que je dis aux filles, de rencontrer d'autres filles aussi qui skatent, soit du même âge, soit qui vont habiter dans le même quartier. C'est de créer des rencontres pour que par la suite, les filles puissent se retrouver et skater entre elles. C'est vraiment ça l'objectif. Et puis aussi, évidemment, de montrer au monde entier. Non, je veux dire de montrer que bah voilà, les filles, elles en sont toutes tout aussi capables, quoi. Donc et que évidemment, on essaie de faire ressortir le côté fun du skateboard, parce que moi, c'est ce que je crois profondément, et que la plupart des skateurs, skateuses vous diront, c'est que ça apporte quelque chose en plus, le skate, par rapport à d'autres disciplines. C'est vraiment le côté convivial, partage et bienveillance, quoi.
Le skate a fait son apparition aux Jeux Olympiques. Plusieurs Françaises devraient y participer. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ça permet de créer, comment on dit, la parité, quoi. Parce que pour être au JO, bah voilà, faut une équipe de France filles, une équipe de France hommes. Donc voilà, ça va inciter à développer aussi tout ce qui est la compétition, les championnats au sein de la, enfin, en France, quoi. Donc il y a tout un travail derrière. Évidemment, ça apporte de la visibilité au skateboard. Très aussi que ça a tout à fait sa place avec les autres sports, quoi, au JO. Après, il y a pas mal de personnes dans le skate qui sont contre ça, mais moi, j'ai envie de dire, il en faut pour tous les goûts. Je sais que moi, dans le skate, il y en a qui sont contre les compétitions, qui n'aiment pas la compétition, qui veulent que le skate, ça reste assez fun. Moi, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a d'autres qui aiment bien la compétition, se mesurer aux autres et tout. Donc voilà, quoi, ça leur laisse la possibilité de faire ça. Et après, le skate peut apporter un petit truc supplémentaire au JO en disant, bah voilà, nous, on n'est pas qu'un sport, il y a tout il y a toute une histoire derrière, toute une culture. Ça serait super, quoi.
Merci à Sophie d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Sophie Berthollet est la présidente de l'association Relax, qui met en avant la féminisation de la pratique du skateboard. Merci à tous et à toutes de m'avoir écoutée.
Merci à Lina, notre stagiaire de 3e. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
On se retrouve lundi prochain à 18h avec une émission dédiée à l'avenir de la médecine de proximité. Belle semaine sur nos ondes.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Radondi.